Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous sommes arrivés à la fin de l'année liturgique et peut-être à la fin des temps. C'est le sens de ce dernier dimanche de l'année, ce 24e dimanche après la Pentecôte, et toujours celui que l'on entend à la fin de l'année. Et il a beaucoup à nous dire, cette petite apocalypse de saint Matthieu que nous venons d'entendre, nous dit quelque chose à la fois du temps et à la fois de sa fin. C'est mon plan. D'abord, je vais voir le temps qui est à Dieu, et dans un second temps, je verrai la fin des temps. Tout d'abord, le temps est à Dieu. Oui, le temps est à Dieu, c'est une création du Seigneur qu'il a voulu, qui c'est donc quelque chose de bon. Dès la création dans le paradis originel où étaient plongés nos premiers parents, il y avait déjà cette temporalité, vous l'avez lu souvent dans le chapitre premier de la Genèse, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a donc une temporalité de la création, et cette temporalité de la création qui avance, eh bien, est bonne. Elle est faite pour manifester la victoire du Seigneur dans le monde. Elle est faite pour que les hommes aient cette possibilité, cette création, ce temps, ce moyen pour rejoindre Dieu. Donc nous sommes ravis que les temps existent et nous sommes ravis de leur déroulement. Tout est à Dieu, vous le savez, le sommet de l'histoire est arrivé avec l'incarnation du Christ et nous sommes donc dans les derniers temps, depuis l'incarnation du Christ, jusqu'à ce que cela se termine. Il y a donc une grande raison de se réjouir que Dieu qui est éternellement en dehors du temps nous ait donné ce temps pour nous, car il l'a voulu saint. Il a voulu sanctifier les temps, et souvent on se lamente que les temps sont mauvais, que c'est plus comme c'était, que je sais pas quoi. Eh bien, nous devrions nous réjouir régulièrement, rendre grâce à Dieu que justement nous sommes en plein dans une période extraordinaire et magnifique, puisque c'est celle que nous devons sanctifier, c'est celle de notre propre salut, c'est celle qui va signer mon entrée au ciel. Rendons grâce à Dieu qu'il y ait du temps. Alors je sais bien, je ne voudrais pas peindre les choses en rose indûment, il y a des malheurs et des terreurs qui surviennent dans le temps, des échecs et des combats. Eh bien, c'est à travers cette vie réelle que la chair va être sauvée, c'est-à-dire, comme nous le dit le texte de saint Matthieu, eh bien, c'est à travers cette temporalité terrible que nous sauvons notre vie, y compris notre chair. Et le Seigneur a soin de ne pas laisser détruire la chair des élus. C'est pourquoi il n'y aura pas de souffrance qui nous soit imposée, qui puisse aller jusqu'à ne pas nous permettre l'entrée au ciel. Donc ne vous effrayez pas des terreurs du temps, car elles sont permises par Dieu. Il nous faut donc rendre grâce, je l'ai déjà dit, pour ce temps. Il faut remercier sans cesse tous les soirs en vous couchant que vous avez encore eu cette journée. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, après avoir fait méditer le péché, la mort, l'enfer, eh bien, m'invite à une grande joie, à rendre grâce que je n'y suis pas encore et que j'ai encore le temps de me sauver, j'ai encore le temps de me convertir, de changer de vie et d'aller vers lui. Alors comment fait-on pour sanctifier ce temps comme Dieu l'a voulu saint ? Eh bien, il faut vous interroger dans votre vie, comment vous sanctifiez votre journée ? Est-ce que vous commencez par un signe de croix ? Est-ce que vous terminez par un examen de conscience et une action de grâce ? Est-ce que vous dites le bénédicité ? Est-ce que vous dites votre chapelet ? Vous arrive-t-il d'aller à la messe dans la journée ? Voilà, il s'agit de sanctifier sans cesse le temps qui est le nôtre, et puis l'examen que vous portez sur votre journée, vous pouvez le porter sur votre semaine. Est-ce que vous allez bien sûr à la messe le dimanche ? Est-ce que vous préparez les textes du dimanche en famille ? Est-ce que il vous arrive dans le mois de faire une petite récollection, c'est-à-dire une mini-retraite d'une heure ou deux ? Pourquoi pas ? Vous arrive-t-il de prendre un temps de retraite annuelle ? Bref, comment faites-vous pour rendre ce temps à Dieu ? Car il lui appartient. La prière, la piété est un acte qui est une vertu qui est rattachée à la grande vertu de justice. En priant, nous ne sommes pas des gens extraordinaires qui faisons des choses magnifiques, nous sommes des gens justes qui rendons à Dieu la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Alors, je vous le dis parce que toujours, les gens ont l'impression de n'avoir pas de temps. Et c'est vrai, nous n'avons pas de temps. Hein, quand vous proposez toute activité spirituelle à vos amis, et je vous invite à le faire avec beaucoup d'être des apôtres, eh bien, en général, souvent, vous pouvez entendre cette réponse polie, c'est très bien, c'est sûrement intéressant, mais j'ai pas le temps. Hein. Alors, évidemment, dites-vous bien que vous n'aurez jamais le temps. Hein. Quand j'étais étudiant, je proposais à mes camarades de dire le chapelet, et ils n'avaient pas le temps. Forcément, ils étudiaient. Hein. Ensuite, on a eu des métiers. Alors, j'ai proposé à mes camarades de travail de prier, de faire des récollections, des pèlerinages. Alors, évidemment, ils n'avaient pas le temps puisqu'ils travaillaient. Hein. Et puis, après, quand on est à la retraite, je ne sais pas encore, mais j'imagine qu'on n'a pas le temps non plus parce qu'il faut s'occuper des petits-enfants, etc., etc. Et voilà. Et donc, ces gens qui n'ont jamais pris le temps de vivre avec Dieu, ben mourront sans Dieu. Voilà. Parce que quand il n'y aura plus de temps, là ça sera vrai, il n'y aura plus du tout de temps, ben il ne sera plus temps de choisir le bon Dieu. Alors c'est maintenant qu'il faut avoir le temps. Et on me demande souvent, « Ah, monsieur l'abbé, est-ce que vous auriez le temps ?» Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mais je vais le prendre. Parce que si je ne le prends pas, si c'est nécessaire, il faut que je prenne le temps. Pas le temps de confesser, je n'ai pas le temps d'aller dire la messe, je n'ai pas le temps de faire des visites, je n'ai pas le temps. Non, ben je le fais quand même. Je le prends, le temps. Parce que sinon, je risque de le gâcher. Voilà, ça c'est la question du temps. Il faut le sanctifier et donc le rendre à Dieu. Alors ce temps, maintenant que je viens d'en parler avec ardeur, eh ben, il va avoir une fin. Oui, il va y avoir une fin. C'est ce que nous révèle l'Apocalypse de Saint Matthieu ici, ce qu'on appelle la petite Apocalypse de Matthieu, ce que révèle la grande Apocalypse de Saint Jean, puis Saint Luc aussi en a une part. Bref, tous les apôtres sont d'accord pour nous dire qu'il y aura une fin des temps. Alors il y en a des signes et il y a une réalité. Cette réalité de la fin des temps, nous, les croyants, nous le savons depuis toujours. Hein. Alors les scientifiques sont toujours un petit peu à la traîne dans la connaissance de la vérité, commencent simplement depuis une vingtaine, trentaine d'années à s'en apercevoir. Bon, plus exactement, ils le savaient aussi depuis toujours qu'il y avait eu un début, qu'il y aura une fin. Et puis, disons, il y a une petite parenthèse d'ignorance dans l'histoire. Ça arrive, hein, c'est donc de la fin du 19e aux années 1980, en gros, où les scientifiques ont cru que eh ben, c'était éternel, hein, que ça allait continuer toujours, etc. Et évidemment, c'est une folie, c'est une erreur, tout simplement. Et comme nous savions déjà qu'il y aurait une fin, puisqu'on sait qu'il y a eu un début, on a attendu gentiment les scientifiques, qui commencent seulement de nous rejoindre, avec humilité pour certains, en tout cas l'essentiel avec vérité. Oui, nous le savons, il y a eu un début, il y aura une fin, et c'est pour ça que cela plonge la plupart de nos contemporains dans le désarroi, parce que bah, du coup ils ont peur, ils sont dans l'horreur, et tout ça va finir, et tout ça n'a pas de sens. Alors nous sommes là pour leur dire que c'est pas grave, parce que justement il y a un sens. Nous ne sommes pas des insensés, comme le dit saint Paul, nous savons où nous allons vers Dieu, tout simplement. Voilà, alors nous savons que la cause première est aussi la cause finale, parce que ce qui était au début sera à la fin, ce qui a fait que le monde existe, ça s'est fait pour une cause, un but visé, et c'est le même, c'est Dieu. Donc nous savons que nous allons retourner à Dieu, et donc la question de la fin du monde n'a rien qui doive, dans son principe, effrayer les chrétiens, puisque nous le savons depuis toujours, et même nous l'espérons, nous l'attendons, et en communiant ici, messe après messe, nous prenons les arts de cette venue glorieuse du Seigneur, qui ici se fait dans la modestie du voile de l'hostie, mais qui non moins réellement nous donne déjà ce Christ ressuscité. Alors bien sûr, il y a des signes, et si je prends ceux qui sont ici dans l'Évangile, il y en a deux sortes. Il y a des signes de catastrophe naturelle et des signes de catastrophe de la foi. Alors d'abord, des signes de catastrophe naturelle. Eh bien, nous n'avons rien vu en la matière. Bien sûr, la Terre a déjà connu des bouleversements, l'univers aussi, mais il va y en avoir de bien pires. La fin du monde sera un bouleversement total, c'est-à-dire un bouleversement universel, pas juste un petit tremblement de terre, non, tout sera renversé. Il s'agit d'un enfantement qui va tout renouveler. Alors oui, les scientifiques s'interrogent aussi, est-ce que le soleil va exploser, est-ce qu'il va arrêter de brûler, est-ce que notre univers sera englouti dans un trou noir, est-ce que... Bon, enfin, j'en sais rien, tout ça n'est pas très grave, si j'ose dire. Enfin, si, c'est grave, mais c'est pas important. Et donc, tout ça va finir, voilà. Et donc, ne nous effrayons pas. Lorsque cela arrivera, on sera bien renseigné, dit l'apôtre, parce que ça sera comme un éclair de soleil qui va du levant au couchant, c'est-à-dire immédiatement une illumination que nul ne pourra ignorer. Ça, c'est les signes naturels, ils peuvent se préparer, il peut y avoir des météorites qui explosent, il peut y avoir des tas de choses dans le monde. Ce ne sont que des signes avant-coureurs, ce n'est pas encore la fin. De toute façon, la fin, on le saura, c'est quand ça sera fini. Et donc, il y a aussi des signes de catastrophe de la foi. Alors, les signes de catastrophe de la foi, c'est l'abomination de la désolation, que le lecteur comprenne, dit saint Matthieu, parce qu'il sait que l'abomination de la désolation, tout le monde sait ce que c'est l'introduction des idoles païennes à l'intérieur du temple. Alors, c'est déjà arrivé, ça peut arriver, et ça peut arriver encore. Je ne vous dis pas quand ça peut arriver, mais on ne sait jamais, soyez attentifs. L'essentiel, c'est que, comme pour ce monde, nous soyons attentifs à notre foi. Et notre foi se garde du credo transmis par les apôtres, la révélation a été close avec la mort du dernier apôtre, elle se garde des mœurs de l'Église proclamées de manière certaine, de manière constante depuis le début de l'Église, elle se garde de la liturgie de l'Église d'une manière constante, elle se garde par la communion avec l'Église, c'est-à-dire avec la hiérarchie. Alors, quoi qu'il puisse y arriver, y compris même dans cette hiérarchie, on ne sait jamais, même moi je peux errer, c'est pour vous dire, eh bien, ne vous inquiétez pas, si j'errais, je serais quand même prêtre, je dirais des bêtises et vous me reprendriez fraternellement parce que c'est votre charité, mais cela ne remettrait pas en cause ni mon sacerdoce, ni l'Église. Alors il vous faut tenir avec fermeté la foi, les mœurs, la liturgie et l'union avec l'Église. C'est ça qui fera qui vous fera durer dans la vérité de Dieu qui a établi ces signes pour notre salut. Soyez attentifs à ces signes, ne soyez pas ni naïfs ni effarés, n'allez pas courir à gauche, à droite, à l'extérieur de l'Église ou dans des lieux sombres de proclamation de foi torve. Non, la foi ne peut pas changer, il n'y en a qu'une, c'est là où est le Christ et nulle part ailleurs. Je crois que saint Matthieu est particulièrement clair. Eh bien, cette réalité du jugement final qui arrivera et de la manifestation du Christ dans la gloire, c'est ce que nous espérons et attendons. Il n'y a pas de raison, tout comme ceux qui ont gardé la foi avant nous, que nous faiblissions. Nous allons, malgré l'inconfort parfois du chemin, malgré les contradictions de notre chemin, contradictions du monde extérieur, contradictions diaboliques à l'intérieur du temps et à l'intérieur de l'Église, eh bien, nous allons garder la foi, les mœurs, la liturgie et l'union avec la hiérarchie de l'Église. Nous allons garder l'union avec Dieu, qui nous fait déjà vivre maintenant, qui va vous faire vivre de cette Eucharistie et qui vous fera vivre éternellement. Ne vous laissez pas tromper, l'ennemi cherche à vous enfumer et diaboliquement à vous sortir de cette union au Christ. Résistez, combattez, nous sommes dans l'Église militante pour cela, c'est ça notre salut. Ainsi soit-il.